Cette semaine, il y a l'exposition des œuvres de Anne Wouters au rez-de-chaussée, mais les heures sont fixées. Vous trouverez l'horaire ou bien au-dessus, au troisième, ou bien à la porte, juste à la porte du Grand Parloir, vous avez l'horaire des moments d'ouverture. Donc il s'agit de la manière de lire ou de méditer le prologue de Saint Jean par des mots et par des images. Nous retrouvons Monsieur Job. Monsieur Job qui est interpellé par le Seigneur. On peut se demander pourquoi le Seigneur a attendu si longtemps. Nous pensons souvent que le fait de prier ou d'implorer ou de demander au Seigneur, qu'il va se hâter et qu'il va venir. Il est bon que nous lui disions que nous sommes impatients. Mais lui vient quand il veut et quand c'est bon pour nous. Et il y a souvent un décalage entre la manière dont nous l'implorons et la réponse du Seigneur. Le Seigneur répond tout le temps. Et c'est ça que le livre de Job veut nous dire. Il répond tout le temps. Mais c'est parfois par son silence, parfois c'est par une invitation, comme nous l'avons vu avec Éliou, qui disait, mais il y a des médiations, il y a des anges, il y a des événements qui sont angéliques. Le Seigneur est toujours en communication avec nous. Mais nous ne sommes pas toujours prêts à recevoir ce qu'il nous donne. Soit le silence, soit la parole, soit le sentiment, soit la sécheresse, le désert, la mer. Le Seigneur agit dans la réalité des faits. Parce qu'il est la réalité des faits. Et le Seigneur agit aussi en nous pour nous ouvrir l'oreille. Mais ce n'est pas parce qu'il agit en nous que nous ouvrons nécessairement l'oreille. C'est tout le mystère de l'Esprit-Saint, ou, selon le langage de la sagesse, le mystère de la sagesse de Dieu. Dieu est dans le macrocosme, il est dans l'univers, et il est à l'intérieur de nos cœurs. C'est pour cela qu'une des manières d'exprimer l'Esprit-Saint, c'est le vent. Le vent est extérieur à nous. Le vent ne nous appartient pas, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va, dit Jésus à Nicodème. Le vent nous entoure de toutes parts. Mais le vent est aussi en nous. Nous respirons aussi cet air dont nous avons besoin pour vivre. Il est extérieur et il est intérieur. Il est extérieur et il nous dépasse infiniment. Il est intérieur et il nous dépasse infiniment. Et justement, c'est cela qui fait que Dieu nous donne l'impression d'attendre, que nous devons attendre. Et on se demande, parce que nous sommes impatients, parce que nous avons le temps des hommes et pas le temps de Dieu, et nous avons l'impression qu'il tarde. Et alors, quand il vient, de quoi nous parle-t-il? Vous voyez, nous avons vu les chapitres 38 et 39 du livre de Job, et nous sommes probablement perplexes. Dieu donne l'impression de se moquer de Job. Où étais-tu? Qu'est-ce que tu faisais quand je criais, etc. Est-ce que tu as percé les mystères de la création? Et il fait découvrir à Job que son savoir est très restreint, très réduit, très mesquin, très mesuré par sa petite personne. Et que le savoir de Dieu nous dépasse Absolument. C'est ça qu'il fait savoir à Job. Mais en même temps, il parle à Job, nous l'avons vu, du sein de la tempête. La tempête peut être un événement extérieur, mais dans la Bible, la tempête dit toujours une présence de Dieu. Parce que quand Dieu vient de façon un peu plus consciente dans la vie des hommes, quand Dieu vient, il bouleverse tout. Ce bouleversement ne dure pas toujours longtemps, mais ça commence par être, nous commençons par être absolument bouleversés. Pourquoi ? Parce que de nouveau, la présence de Dieu nous dépasse infiniment. Et nous voulons toujours mettre Dieu, comme toutes les réalités du monde, à notre disposition. Et c'est nécessaire. Nous commençons par ramener les choses à nous. Parce que les choses, les événements, les personnes, c'est nous qui les voyons. Mais nous ne pouvons pas continuer à nous attacher à nous, précisément parce que tout ce qui nous vient nous dépasse. Et donc après ce premier accueil d'une présence, d'un événement, d'une réalité quelconque, après cela, nous avons à nous ouvrir à la réalité. Justement, si elle nous dépasse, ce n'est pas pour que nous nous recroquevillions en nous-mêmes, c'est pour nous ouvrir le cœur. Nous ramenons à nous, mais nous avons à respirer et à ouvrir les bras et à recevoir ce qui nous est donné. Et cela, nous ne le faisons pas toujours. Nous commençons souvent par nous sentir maladroits, mal à l'aise, et nous voudrions que les choses soient autrement qu'elles ne sont. Donc, après ce premier mouvement d'appréhension, nous pouvons nous ouvrir. C'est exactement ce que le lecteur, le narrateur ou le compositeur du livre de Job nous invite à faire avec M. Job, qui est bien sûr, vous l'avez bien compris, chacun d'entre nous. Il nous fait découvrir d'abord l'extrêmement grand, la météorologie. Cela nous dépasse. Bon, il y a moyen de capter et d'établir des lois de la météorologie. Mais il y a des choses qui nous dépassent dans cette météorologie. Elle n'est pas toujours au point non plus, celle qui nous est donnée. Et Dieu prend Job par la main et l'invite à découvrir son musée météorologique, c'est-à-dire l'environnement. Tu reçois un environnement en naissant. Tu reçois les lois de ton être et les lois de cet environnement. C'est ça qui te constitue. Et toute ta vie va être une sorte d'adaptation à cet environnement, une réaction personnelle, et en même temps un accueil. Et vous avez remarqué que Dieu décrit à Job l'histoire de la nature, si on peut s'exprimer ainsi, la genèse du monde, comme la naissance d'un homme, avec ses limites. L'homme est une merveille, tout se découvre dans cette petite semence qu'il est dans le sein de sa maman et qui va se développer selon des lois de la croissance qui sont les lois de notre existence et que nous ne dominons pas. Il y a une croissance constante en nous, comme d'ailleurs dans l'univers. Donc découvrir la merveille de notre univers et la merveille de notre corps humain, c'est une grâce extraordinaire, c'est une présence de Dieu. Voilà ce qui nous est dit au chapitre 38 à peu près. Et puis il passe à la nature animée. La météorologie nous dépasse parce que nous ne pouvons pas enfermer ses lois et les découvrir parfaitement. Et surtout pas les commander. Donc il y a une impuissance congénitale à l'homme. Et puis, il le fait passer à son jardin zoologique. Et il s'arrête devant différents animaux. Ces différents animaux ont chacun un instinct. Chacun un instinct. Et cet instinct de conservation se transmet d'animal à animal par les parents aux enfants. Ce sont des lois de l'animal et les lois de l'homme. L'homme est aussi un animal dit raisonnable. Et effectivement, dans la Genèse, c'est le sixième jour qui est le jour de la création et des animaux et de l'homme. Donc nous avons une accointance particulière avec l'animal. Nous avons un instinct. Mais cet instinct nous fait découvrir, par notre prise de conscience de cet instinct, nous fait découvrir la grâce d'être une créature. La grâce de ne pas nous être composés tels que nous aurions peut-être voulu, mais comme nous n'existions pas alors, nous nous imaginons que nous aurions pu nous construire. Mais nous ne pouvons nous construire qu'avec ce que nous sommes. Et l'homme ne peut faire de la vie qu'avec de la vie qui lui est déjà donnée. Et c'est justement cette conscience ouverte, accueillante, heureuse de la limite qui nous est donnée. À travers cette conversation de Dieu avec Job. Cette conscience qui nous est donnée de notre existence et de ses limites, c'est précisément la grâce de la présence divine. C'est ce que nous appelons la providence, c'est-à-dire Dieu qui nous mène par sa présence à laquelle nous avons à nous accommoder, que nous avons à recevoir, que nous avons à entériner, à accepter et à vivre. Et notre liberté, c'est cela. Notre liberté, c'est la grâce qui nous est donnée de devenir vraiment nous-mêmes, devenir cette présence unique que nous sommes, pour un temps et dans un espace déterminé. Ça, c'est la grâce de notre liberté. Nous imaginons souvent une liberté inconditionnelle, une liberté totale, absolue. Ce n'est pas notre lot. Notre lot, c'est une liberté limitée par ce que nous sommes et par notre environnement. C'est tout ce que nous avons lu dans les chapitres 38 et 39. Mais il faut y réfléchir. Il faut savoir ce que les mots et les images veulent dire. L'homme est une liberté conditionnée, pas absolue. Mais dans ses limites, précisément, nous sommes libres, justement, de les accepter, ces limites. Et quand nous acceptons nos limites, le fait d'être créature, donc notre limite par rapport à Dieu, notre limite dans le temps et dans l'espace, et la limite aussi des autres, nous sommes parfaitement libres. Et c'est une réalité à recommencer chaque jour. Voilà ce qui est dit à Job. Réfléchis à ce que tu es, deviens ce que tu es. Ça, c'était l'objet des chapitres 38 et 39. Et il y a probablement un auteur qui ne s'est pas contenté de cette donnée. Il dit, il faut continuer. Et bien c'est l'auteur lui-même. Hein. Il semble que ce soit un peu ajouté à un moment déterminé, comme ce livre a été d'abord colporté de façon orale. Nous ne savons pas exactement quand il a couru à l'intérieur d'Israël. Mais l'homme qui a ajouté les chapitres suivants, 40, 41, il savait quelque chose aussi. Il savait comment on se représentait l'homme et comment on se représentait le monde des dieux, en Assyro-Babylonie, hein, Proche-Orient, ou bien en Égypte. Et il connaissait aussi les images sous lesquelles on se représentait les choses. Les réalités qui nous dépassent et que nous absolutisons, ce sont les idoles. Dans la Bible, ce sont des représentations de Dieu. C'est-à-dire des réalités, des conditions humaines qui font partie vraiment de la réalité de l'homme, mais que l'homme, d'une manière ou d'une autre, absolutise. Nous avons vu les animaux. Eh bien, il y a beaucoup de représentations que nous appelons généralement des représentations de chasse qui existent dans tout cet imaginaire du Proche-Orient ancien. Vous pouvez regarder par exemple la manière dont les dieux égyptiens sont représentés avec une tête d'animal. Cette tête d'animal dit justement la diversité des êtres avec les qualités et les défauts, les limites de chaque animal. Et il y a un dieu qui est le dieu de la royauté, qui est aussi le dieu du temps et de l'espace, je dirais le dieu Horus en Égypte, qui symbolise au fond l'harmonie qui peut être l'harmonie politique, l'harmonie d'un état, l'harmonie de la vie, le bien-être. Et puis vous avez aussi des dieux qui représentent des forces maléfiques, des forces du mal. Et donc ça dépend un petit peu des animaux qui sont des animaux domestiqués ou des animaux sauvages souvent. Mais toujours comme des totems, avec leurs qualités et leurs défauts. Et vous avez des images qui reviennent souvent dans l'aglyptique. L'aglyptique, ce sont les pierres des anneaux, hein, les anneaux dont on cachette les lettres sur l'argile humide. L'aglyptique nous inspire très souvent. Elle montre ce qu'on appelle le dieu des animaux, c'est-à-dire c'est un homme un peu divinisé, il y a toujours un petit élément qui manifeste qu'il est le Dieu, la présence un peu universelle ou absolue, et ce Dieu qui saisit des animaux, ou bien qui les tue. C'est au fond l'image qui revient souvent aussi dans les grottes de Lascaux ou autres, chez ce qu'on appelle l'homme primitif. Cette saisie de la réalité dans laquelle on se trouve, et souvent cela vient des grottes qui symbolisent le sein maternel, et on dessine sur la muraille de ces grottes, on dessine toutes sortes de choses intéressantes, des scènes de chasse souvent. Mais la chasse à l'animal féroce, donc qui ne se domestique pas, comme dans la Bible, ce sont des animaux non domestiqués qui apparaissent, et dans le chapitre 39, on dessine des chasses, c'est-à-dire la manière dont l'homme va essayer de dominer, de maîtriser le mal, les puissances qui le dépassent, qui sont plus fortes que lui, symbolisées par ces animaux sauvages. L'homme veut maîtriser le mal. Et c'est évidemment de cela qu'il s'agit dans le livre de Job. Et on va vous présenter deux animaux particuliers. un animal qui s'appelle en hébreu behemoth, c'est-à-dire la grosse bête au pluriel même, donc c'est-à-dire l'idée, l'image de la grosse bête, la brute, le brutal, si vous voulez, la violence, autrement dit. Et justement, c'est une force massive, terrible, non maîtrisable, à cause de sa force. Nous dirions aujourd'hui le bulldozer, ou le tank, le char d'assaut. Et cette symbolisation, vous voyez, la symbolisation de l'animal va passer chez nous à la technique. Cet animal, c'est l'hippopotame. L'hippopotame qui est dans les fourrés du Nil et qu'on ne maîtrise pas facilement. À cause de sa masse et de sa violence, il envoie promener tous ceux qui le chassent. C'est la violence brutale qui symbolise donc la violence des éléments. On ne peut rien contre les éléments. Contre un ouragan, contre une inondation, contre une éruption volcanique, on ne peut rien. C'est la respiration du monde. Mais il y a aussi le mal sournois, la violence calculée, la violence des hommes cette fois-ci, non plus les éléments, mais les hommes. Et là, c'est un autre animal, du Nil aussi, qui est choisi, c'est le crocodile, le Léviathan. Léviathan, c'est un nom un peu fantasmagorique, un peu magique, pour dire le monstrueux. Mais le monstrueux sournois, il calcule, qui mord, il a des dents acérées. Et donc là derrière, il y a aussi ce que nous appellerions aujourd'hui, qu'est-ce qui mord surtout ? Ben, ce sont les médias. Parce que les médias font aussi du mal. La brutalité des événements et la violence humaine. Et voilà que ces deux réalités que nous vivons nous-mêmes et contre lesquelles nous nous défendons, des animaux indomptables, réputés tels en tout cas, c'est sous l'image de ces animaux que le deuxième discours de Dieu va être établi. Et je vous ai donné dans les feuilles ici un petit résumé de ces deux discours de Dieu. Premier discours de Dieu, ce qui dépasse absolument l'homme à l'extérieur, météorologie, ce qui le dépasse à l'intérieur, cette réalité humaine limitée, qui est l'instinct, qui est sa liberté. Mais maintenant, on va regarder l'extérieur. Cet extérieur, donc, que nous subissons, mais justement, contre lequel nous avons à nous défendre. Donc, quelle est l'attitude de l'homme par rapport à tout ce qui lui fait du mal ? Par ce que nous appelons de façon abstraite le mal. Le Seigneur apostropha alors Job, chapitre 40e, et dit : celui qui dispute avec le puissant, a-t-il à critiquer ? Commençons souvent par là, critiquer. Celui qui ergote avec Dieu, voudrait-il répondre ? Job répondit alors au Seigneur et dit : je ne fais pas le poids, que te répliquerai-je ? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. Nous étions restés là. Le Seigneur répondit alors à Job du sein de la tempête, du sein de l'ouragan, et lui dit : ceins donc terrain comme un brave. Je vais t'interroger, tu m'instruiras. Il reprend déjà ce qu'il avait dit. Veux-tu vraiment casser mon jugement, me condamner pour te justifier ? As-tu donc un bras comme celui de Dieu? Ta voix est-elle un tonnerre comme le sien? » Donc ici, donc, il fait découvrir à Job l'irréductibilité de la présence et du savoir de Dieu par rapport à la présence et au savoir de l'homme. « Allons, pars-toi de majesté et de grandeur, revêt-toi de splendeur et d'éclat. Épanche les flots de ta colère et d'un regard abaisse tous les hautains. D'un regard fais plier tous les hautains, écrase sur place les méchants. » Puisque tu es si malin, et c'est vrai, puisque tu es si malin, fais disparaître le mal. Et c'est quelque chose que nous avons à faire, faire disparaître le mal. Et c'est ce à quoi la science et la technique s'emploient. Enfouis-les pêle-mêle dans la poussière, bâillonne-les dans les oubliettes. Alors moi-même, je te rendrai hommage, car ta droite t'aura valu la victoire. Tu seras comme un dieu, vous serez comme des dieux. Hein? Bien, si tu sais faire cela, si tu sais chasser véritablement le mal, eh bien, tu seras comme un dieu. Oui, mais comment Dieu chasse-t-il le mal? Voilà la question. Et alors, il va nous présenter le premier animal que la Tobe traduit par le bestial. C'est bien traduit. C'est la bête brute. Voici donc le bestial. Donc, vous avez en tête, hein, en image, l'hippopotame. La brute, exactement. Je l'ai fait comme je t'ai fait. Il est aussi une créature. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Vois quelle force dans sa croupe et cette vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre, ses cuisses sont tressées de tendons. Ses os sont des tubes de bronze, ses côtes du fer forgé. C'est lui le chef-d'œuvre de Dieu. Mais son auteur le menaça du glaive. Chef-d'œuvre de Dieu, mais qui domine. Dieu qui est dominé par Dieu. Donc, bon, c'est Dieu qui domine. Aussi, est-ce du foin que lui servent les montagnes, et autour de lui se jouent les bêtes des champs. Il se couche sous les jujubiers, sous le couvert des roseaux et des marais. Les jujubiers le protègent de leur ombre, les peupliers de la rivière l'entourent, le fleuve se déchaîne, mais lui ne s'émeut pas. Un Jourdain lui jaillirait de la gueule sans qu'il bronche. Le Jourdain, c'est à la fois une source d'eau bénéfique, bien sûr, mais en même temps, il peut inonder. Quelqu'un pourtant lui fera front et s'emparera de lui, l'entravera, lui percera le naseau. Bien sûr, il y a de la vulnérabilité dans l'hippopotame, mais il faut l'atteindre. Et donc la question se pose. Contre le bestial, contre la brute, contre les éléments, qu'est-ce que tu fais? Tu les reçois passivement, tu réagis. Tu te protèges, de quelle manière? Mais tu ne parviens pas à anéantir. Personne n'a anéanti le mal. Vous voyez, ça pose une profonde question. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Comment une créature de Dieu devient-elle une impossibilité donnée aux hommes pour vivre? Mais ça, ce sont les éléments. Et alors, l'autre animal, le crocodile, enfin, symbolisé par le crocodile, il l'appelle dans la Bible le tortueux. Behemoth, le Léviathan. Léviathan, c'est ça, c'est aussi celui qui se faufile partout. Et le tortueux, vas-tu le pêcher à l'hameçon? Et de ta ligne, le feras-tu lui ferrer à la langue ? Le ferrer à la langue, attraper sa langue, ouais. Comme tu fais pour un vulgaire poisson. Lui passeras-tu un jonc dans le naseau ? Perceras-tu d'un croc sa mâchoire ? Est-ce toi qu'il pressera de supplications ? Te dira-t-il des tendresses ? S'engagera-t-il par contrat avec toi, envers toi ? Le prendras-tu pour esclave à vie ? Joueras-tu avec lui comme avec un passereau ? Le tiendras-tu en laisse pour tes filles ? Est-ce que tu en feras un jouet ? Est-ce que tu pourras dompter un crocodile ? Vous associez-vous pour le mettre aux enchères ? Le débitera-t-on entre marchands ? Va-t-on cribler sa peau de dard ? Vas-tu cribler sa peau de dard, sa peau, hein, qui est terrible avec ses écailles de dard, puis sa tête de harpon ? Pose donc la main sur lui. Au souvenir de la lutte, tu ne recommenceras plus. Le mâle est indomptable. Terrible, hein ? C'est terrible. Et donc ce mâle sournois, qui agit dans l'ombre. Tu n'arrives pas à le maîtriser. Là, ça fait partie de la réalité de l'homme. L'homme doit affronter le mal. Et Dieu dans tout ça, hein ? Voilà, il continue, hein. C'est pas fini, la description. Vous, vois, devant lui, l'assurance n'est qu'illusion. Sa vue seule suffit à terrasser. Nul n'est assez téméraire pour l'exciter. Qui donc alors oserait me tenir tête ? Qui m'a fait une avance qu'il me faille rembourser ? Tout ce qui est sous les cieux est à moi. Tout ce qui est sous les cieux est à moi. Donc, le mal ne peut pas avoir le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et pourtant, le mal existe. Je ne tairai pas ses membres. Le détail de ses exploits, la beauté de sa structure, qui a ouvert par devant son vêtement, qui a franchi sa double denture, qui a forcé les battants de son mufle autour de ses crocs, c'est la terreur. Quel orgueil de si solides boucliers, bien clos, scellés, pressés, hein, les écailles du crocodile. L'un touche l'autre et un souffle ne se glisserait pas. Il a vraiment une armure étonnante. Chacun colle à son voisin. Ils s'agrippent, inséparables. Le mal est insurmontable. De ses éternuements jaillit la lumière. Ses yeux sont comme des pupilles de l'aurore. De sa gueule partent des éclairs. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses naseaux, comme d'une marmite bouillante ou d'un chaudron. Son haleine embrase les braises. De sa gueule sortent des flammes. Dans son cou réside la force. Devant lui bondit l'épouvante. Vous voyez, on en fait comme un dragon. C'est cette image du dragon qui symbolise donc tout ce qui est maléfique pour l'homme. Les fanons de sa chair sont massifs. Ils ont durci sur lui, inébranlables. Son cœur a durci comme la pierre. Il a durci comme la meule. La meule de dessous, celle qui ne bouge pas, quand il se dresse, les dieux prennent peur. La panique les débande. L'épée latin, sans trouver prise, lance, javeline, flèche. Il tient le fer pour du chaume et le bronze pour du bois pourri. Donc c'est ce qui est irrésistible dans ces forces qui nous entraînent, et qui sont vraiment symbolisés, et l'Apocalypse reprendra ça dans ce que nous appelons aujourd'hui les médias. Les traits de l'arc ne le font pas fuir, Pour lui, les pierres de fronde se changent en paille, la massue, lui semble une paille, et il se rit du sifflement des sagaies. Nous essayons de maîtriser une maladie, une autre revient. C'est terrible, hein, ces épidémies, ces maladies de l'homme. Ses limites. Il a sous lui des tessons aigus. Comme une herse, il se traîne sur la vase. Il fait bouillonner le gouffre comme une chaudière. Il change la mer en brûle-parfum. Il laisse un sillage de lumière. L'abîme a comme une toison blanche. Sur terre, nul n'est son maître. Il a été fait intrépide. Il brave les colosses. Il est roi sur tous les fauves. Voilà. On pourrait dire, de manière un peu anodine, on ne peut rien contre le mal. Mais d'où vient-il? D'où vient-il le mal? C'est la question fondamentale. Donc qu'est-ce que Dieu fait avec? Pourquoi le mal fait-il partie de la réalité de la création? Non pas que Dieu ait créé le mal, Dieu n'a pas fait le mal, dit le livre de la sagesse. Il n'a pas fait le mal. Mais il a créé des êtres limités. Et ces êtres limités sont capables, à leur manière, le végétal, l'animal, l'homme, sont capables d'une conscience de cette limite. Le végétal, il est censé accepter cette limite puisqu'il fane. Et c'est même une des comparaisons que font souvent les prophètes. L'homme est comme un arbre, une fleur, qui devient merveilleuse et puis qui fane, qui s'en va, qui s'étiole, qui disparaît. Dieu n'a pas fait le mal, mais d'où vient alors le mal? Le mal vient de la prise de conscience de notre limite. L'animal aussi a cette conscience, mais cette conscience est davantage limitée encore que celle de l'homme. L'homme en prend conscience, il a mal, il ressent le mal, et dans sa chair, et dans son âme, dans sa psychologie, dans son être profond, il ressent le mal. Mais que fait-il avec ce mal? Que fait Dieu avec ce mal? Pourquoi ce mal existe-t-il dans l'homme? Et congénitalement, il ne peut pas faire autrement. Parce que c'est le mal qui le protège. C'est parce qu'il a mal, c'est parce qu'il sent un manque, il sent un vide, il se sent meurtri, c'est pour ça qu'il réagit. Mais sa réaction n'est pas totale. Il ne peut pas maîtriser le mal. Car le mal peut profiter à l'un ou à l'autre. Mais puisque Dieu a créé l'homme, le mal n'aura jamais le dernier mot. Oui, mais pour qu'il n'ait jamais le dernier mot, que faut-il? Il faut que Dieu assume ce mal. Il faut que le Créateur le prenne en charge. Et voilà ce que ce discours de Dieu veut signifier pour Job. Le mal ne nous démolit pas complètement. Et cette conscience du mal est une invitation à notre liberté. Et notre liberté est soutenue par cette présence de Dieu. Mais il dit ça en images. À charge pour l'homme de réfléchir à tout cela. Comment Dieu porte-t-il mon mal? Comment est-ce que je puis porter le mal de Dieu? Voilà devant quoi Job se trouve mis. Bon, bien sûr, pour faire cette réflexion-là, il ne faut pas souffrir atrocement, car la souffrance atroce empêche cette prise de conscience. Il y a des maladies, il y a des maux qui, à cause de leur durée, à cause de leur profondeur, nous torturent indéfiniment. Mais quand on est un peu à l'aise, un peu en repos, quand on peut un peu réfléchir, on se dit que si Dieu a créé une nature limitée et qui a conscience de ses limites, il faut qu'il soit présent à cette réalité et qu'il puisse la vivre intérieurement. Si Dieu ne vit pas en tout homme, si Dieu ne vit pas, si le Créateur ne vit pas dans sa créature, alors notre réalité humaine ne signifie rien. Elle est absurde. Ou elle est méchante. Et c'était la question de Job. Ce n'est pas juste, disons-nous. Et nous voulons nous justifier, mais je suis innocent, c'est ce que Job disait. Et Dieu nous dit, je suis innocent en toi, et je t'aime dans ta souffrance. Je la prends avec toi. J'ai pris l'engagement en te créant, c'est-à-dire en mettant au monde le monde et les hommes, j'ai pris l'engagement de le vivre avec lui. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et tout cela est déjà dit, en germe bien sûr. Et c'est une manière aussi pour l'auteur du livre de Job de dire ce que vous lisez dans le livre d'Isaïe ou dans celui de Zacharie, quand il parle de juste souffrant, des psaumes, le juste souffrant. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils de l'homme que tu en aies souci? Tu l'as conçu un peu moindre qu'un dieu. Un peu moindre. Job répondit alors au Seigneur et dit, je sais que tu peux tout et qu'aucun projet n'échappe à tes prises. Aucun projet n'échappe à tes prises. Que tu es présent dans ce que tu fais, dans ce que tu projettes. Qui est celui qui dénigre la providence sans y rien connaître? Tu ne connais pas la complexité et la délicatesse infinie de la providence de Dieu, qui assume tout. Eh oui, j'ai abordé sans le savoir des mystères qui me confondent. Voilà ce que Job répond. Eh oui, j'ai abordé sans le savoir des mystères qui me confondent. Écoute-moi, disais-je, à moi la parole. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. C'est précisément ce que Dieu est en train de faire. Je ne te connaissais que par ouï-dir. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Je ne te connaissais que par ouï-dire, maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi, alors ça c'est une traduction, ce verset est extrêmement difficile à traduire parce qu'il a de multiples sens. Une traduction parmi d'autres, Aussi j'ai horreur de moi et je me désavoue. Mais horreur de quoi de moi? Et je me désavoue, qu'est-ce que je désavoue? Sur la poussière et sur la cendre. La poussière et la cendre, il alla sur son fumier. Quelle est l'importance et quel est l'enjeu de cette réponse de Job? Et c'est fort intéressant de voir dans la littérature des pères de l'Église, puis littérature universelle, de voir comment cette image de Job a été comprise d'un côté ou d'autre. Elle a été reprise parfois comme la résignation absolue, la soumission totale. Bon, c'est comme ça. Il faut bien le vivre. Elle a été comprise comme une manière de voir Dieu comme le maître tout-puissant. Il y avait aussi de cette image au début, dans le discours, dans le dialogue entre Job et ses amis théologiens. Est-ce que Dieu en veut à l'homme? Oui, il y avait cette image, existait, et en Assyro-Babylonie, et en Égypte ancienne. Est-ce que ce texte est d'accord avec cette mentalité, cette perception? Ou est-ce qu'elle nous dit quelque chose de plus? Un petit résumé, je vais donner en très bref, je le prendrai, le copierai pour la prochaine fois dans les feuilles que je remettrai. C'est dans un petit livre, un petit résumé de Danny Noquet, c'est un exégète protestant qui fait bien le point. L'engagement de Dieu dans sa créature rejoint la révolte de Job. L'engagement de Dieu dans sa créature rejoint la révolte de Job. Et la révolte de Job, dit autrement, est précisément la trace de cet engagement de Dieu. La révolte de Job contre l'injustice de la souffrance. En combattant le chaos et le mal, Dieu se montre solidaire de l'homme qui souffre. Ah, Dieu assume toute cette lutte humaine, humanitaire, comme nous l'appelons. Il assume cette réalité humanitaire. Il y a un combat contre la souffrance. Ce qui veut dire que la souffrance n'est pas une bonne chose en elle-même et qu'elle ne sera pas le dernier mot. Jour après jour, Dieu veille sur sa création et rappelle que le mal et le chaos ne sont pas une fatalité. La révolte de Job contre l'injustice de la souffrance est une figure métonymique du combat de la peine de Dieu. Du combat de la peine de Dieu. Le mal atteint Dieu. Il y a eu dans la discussion entre Job et ses amis, et qu'est-ce que ça fait à Dieu que j'ai mal? Le mal atteint Dieu, il vit ce mal. Par sa réponse, Dieu appelle à prendre part à cette lutte jamais achevée contre les forces chaotiques. Nous sommes des êtres limités. Il n'y a pas à nous résigner simplement à ses limites, il y a à les porter. À les porter avec cette confiance que Dieu véritablement les porte en nous. L'homme doit également assumer ses responsabilités face au mal. Le livre de Job ouvre à une dimension éthique, exigeante et différente de l'éthique de la sagesse traditionnelle des amis. C'est pas parce que tu as péché que tu es mal, Mais le mal te demande d'assumer le péché et le mal. Mais tu n'es pas seul dans cette lutte. Les comportements pour lutter contre la souffrance et le mal ne doivent plus relever de la condamnation et du jugement. Assumer la part souffrante de l'existence ne signifie plus s'y résigner et l'accepter comme la fatalité d'un châtiment voulu par Dieu. Non. La confrontation et la résistance au malheur participent à la lutte de Dieu et à sa solidarité envers l'humanité. Dieu prend part à la lutte de l'homme. Cette lutte de l'homme contre le mal est la lutte de Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il peut contre le mal? Est-ce que ce n'est pas faire de Dieu, enfin, diminuer la réalité de Dieu? Si Dieu est impuissant, finalement. Il est impuissant dans l'homme. Et il doit assumer l'impuissance de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il en fait, cette impuissance de l'homme? Comment est-ce qu'il l'assume? Ainsi, le constat de la souffrance n'incite plus à rechercher la faute et la culpabilité pour en accuser l'autre, mais au contraire, à se solidariser avec lui. Si Dieu met au monde des hommes, c'est-à-dire des êtres capables de se rendre compte de leurs limites et de leur origine et de leur destinée, il doit le vivre, il doit vivre tout cela avec l'homme. Pourquoi Jésus s'appelle-t-il le Fils de l'homme ? C'est le seul titre qu'il revendique. Nous verrons cela. Le Dieu de Job dit son combat et sa souffrance. Les termes de toute puissance et de justice sont redéfinis. Dieu était assez puissant pour assurer l'existence de la créature, mais il ne peut pas empêcher la persistance du chaos. Sinon, il ne peut vivre qu'en solitude. Mais solitude, isolement. Et Dieu vit dans une solitude qui est communion. Et donc tous les êtres qu'il fabrique, dirons-nous, et qui portent son nom, tous les êtres sont présence de Dieu. Dieu les assume. Il assume la vie de chacun. Voilà où ça nous mène. Dieu combat le chaos et le mal toujours et sans répit, ce qui ne remet nullement en cause sa justice, même lorsque son plus fidèle adorateur est tout à coup englouti par le malheur. Dieu est compatissant dans le sens originel, qui souffre avec compatir, avec les souffrants, avec la souffrance humaine. Comme le fait entendre la fin du livre, le visage de Dieu n'est donc pas reflété par la sagesse traditionnelle des amis, mais par l'existence difficile et combattante de Job. Son cheminement de résistance met en évidence l'engagement irréversible de Dieu pour sa créature. Celui qui écrit cela a bien compris. Il a bien compris le sens de cette réponse de Dieu. La réponse de Dieu n'est pas un happy end. Nous allons voir la fois prochaine. Pourquoi alors y a-t-il encore une reprise du prologue dans un épilogue? Nous verrons cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu s'engage dans sa création. Et c'est sa présence même dans la vie qui nous est donnée, qui nous fait découvrir notre limite et la présence de Dieu dans cette limite. Alors Job et nous-mêmes, nous pouvons mettre la main devant notre bouche. Voyez, ce n'est pas une simple résignation. Ce n'est pas une fatalité. C'est une prise de conscience de cette lutte difficile. Et comment Dieu peut-il triompher de la souffrance ? Comment Dieu peut-il triompher de cette souffrance intolérable, finale, définitive, qui est la mort ? Définitive. Est-ce que la mort est notre anéantissement complet ? La question est posée. Si Dieu est le Créateur et qu'il assume sa créature, il est aussi la destinée de cette créature. Est-ce que tu le souffres ? Oui, il ne peut que souffrir. Et créer pour lui, c'est l'engagement dans une souffrance. Une souffrance multipliée. Une souffrance universelle. Parce qu'il ne peut, faire exister que des êtres limités. Il ne peut pas se faire exister lui-même, ça ne signifie rien cela. Mais voyez l'importance du mot « commencement » par lequel la Bible commence. La Bible commence par le commencement. « Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz » Au commencement, en tête, Dieu créa le ciel et la terre, c'est-à-dire la totalité. Mais la totalité en deux temps. Le ciel, présence absolue de Dieu, la terre, l'imitation de cette présence. Et le dernier mot de la Bible, c'est... Nous les avions dans l'évangile, dans la deuxième lecture hier. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». L'esprit présence divine. L'épouse, l'humanité qui reçoit cette présence, disent « Viens ». C'est le signe de la véritable croissance. C'est que Dieu vient dans sa créature, non pas comme une obligation, comme une imposition de l'extérieur, il vient dans la liberté de l'homme. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». C'est la réponse au premier verset de l'Écriture. Dieu créa, Dieu lança l'existence de l'homme, cette existence consciente dans laquelle il veut vivre. L'incarnation commence à la création. Elle est en même temps rédemption. L'esprit et l'épouse disent « Viens », c'est-à-dire que Dieu communie avec la réalité humaine pour faire venir Dieu, pour accueillir cet avènement de Dieu dans la réalité de l'homme. Voilà où nous en sommes. Y a-t-il besoin d'un épilogue ? Qu'est-ce que Jésus vient faire dans tout cela ? On n'en parle pas encore, et pourtant, il est déjà là. Il est déjà présent dans la création dès le départ. Et s'il est présent à la création dès le départ, il est aussi celui qui nous amène en Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, celui qui est tourné vers le sein du Père, lui nous l'a raconté. Qu'est-ce que c'est ce récit de Dieu que nous vivons dans notre fragile existence? On verra la fois prochaine pourquoi il faut un épilogue à cette histoire de Job qui n'est pas un happy end, et nous verrons encore après comment Jésus assume tout cela.